L'émission qui suit est animée par un maniaque et comporte des propos stupides, virulents et quelque peu sarcastiques. Nous préférons vous en avertir.
Voilà! Vous écoutez présentement Wake Up avec Ismaël Trépanier de 6h à 10h pour le Québec et de midi à 16h pour l'Europe.
Pour rejoindre l'animateur en ondes, d'une façon,
vocalement et gratuitement via Skype
ou écrivez via MSN à live@rockkick.com.
You're listening to rockkick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Wesh!
Pour l'Amérique du Nord.
Midi à 16h pour l'Europe.
The Punisher.
Chris Desmond.
Co-animation. Patrick Lamarche.
Il est 7h08, wake up le show. On va fêter tout de suite. Massiri Feki, salut, comment ça va?
Bonjour.
Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite une excellente année 2008. Et parmi nous. Hein?
Bon, à vous et à tous les auditeurs de Rockkick.
Oui, merci beaucoup. Et je suis sûr qu'ils sont heureux de l'entendre, Massiri Feki. Alors, on va entrer tout de suite dans l'arène, Massiri. Vous allez nous parler de quoi exactement aujourd'hui, s'il vous plaît? Je vous écoute.
Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'intégration d'Israël au Moyen-Orient.
Ok.
Nous avons vu il n'y a pas longtemps une reprise des négociations a eu lieu avec la conférence d'Annapolis. Et on commence un peu aujourd'hui à parler d'Israël et éventuellement de la reprise du processus de paix. Ce qui a été un sujet qui a été durant plusieurs années déjà, depuis la guerre en Irak, on n'en a pas beaucoup parlé, à cause des événements en Irak, de la menace iranienne, et puis côté palestinien aussi, vous savez, il n'y avait pas de leadership palestinien, et aujourd'hui encore, les Palestiniens sont divisés, il y a eu un coup d'État dans la bande de Gaza et le gouvernement, l'autorité palestinienne, c'est-à-dire le leadership palestinien légitime reconnu par la communauté internationale, y compris même par la Ligue arabe et les principaux États arabes, ne contrôlent pas la totalité des zones A, des territoires qui lui sont directement subordonnés. Et donc, je voudrais vous parler un peu aujourd'hui de la situation actuelle et de la vision qui est la mienne en ce qui concerne l'avenir d'Israël au Moyen-Orient, telle que je l'expose dans mon nouveau livre, Israël, géopolitique et enjeux, qui vient de sortir aux éditions Studirama. Alors, avant toute chose...
J'aimerais juste donner un petit commentaire avant que vous poursuiviez, Massiri. Massiri Feki, une vision très noire de ce qui s'en vient pour Israël au Moyen-Orient. Je ne sais pas pourquoi, mais avec tout ce qui se produit alentour, autour d'Israël, je ne sais pas, j'ai une étrange impression que ça risque de s'écrouler comme un château de cartes, Massiri.
Alors, d'abord, avant toute chose, faisons un peu une présentation des choses.
Oui, d'accord.
lors de la création de l'État d'Israël, les Juifs ne constituaient que 4% de la population israélienne.
D'accord.
Un des rêves de David Ben-Gourion était que les Israéliens atteignent le chiffre du premier million.
D'accord.
Ben-Gurion devrait aujourd'hui être fier d'avoir en Israël près de 7 millions d'habitants. Mais je voudrais aussi signaler que une donnée fondamentale du Bureau des statistiques nationales, du Bureau national des statistiques à Jérusalem, qui a annoncé, d'ailleurs ce n'est secret pour personne, que d'ici une quinzaine d'années, plus d'un juif sur deux sera israélien. Et il va encore plus loin que entre 2050 et 2060, plus des trois quarts des juifs du monde seront israéliens. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que d'un côté, quand on le dit au premier abord, on pense que c'est une victoire éclatante du projet sioniste et que c'est évidemment une bonne nouvelle, étant donné que ça veut dire qu'aujourd'hui l'État-nation israélien, l'État-nation juif, c'est vraiment concrétisé.
Okay.
Mais en même temps, quand on pense que cela est dû non pas au fait qu'il y a une croissance en Israël, mais qu'il y a un déclin en diaspora, c'est-à-dire que le nombre de juifs de diaspora régresse à tel point que la plupart des juifs du monde seront israéliens d'ici quelques années. C'est-à-dire c'est plus dû en fait à l'échec de la diaspora qu'à la victoire réelle d'Israël. Bon, après, les avis peuvent se partager. Et je dirais aussi que lors de l'apparition du mouvement sioniste politique, je dis bien du mouvement sioniste politique,
oui,
non pas du sionisme, parce que
le sionisme
est beaucoup plus ancien, contrairement à ce que certains le prétendent, notamment en France, des académiciens nous fait parfois penser que le sionisme, en tout cas que l'idée que la création d'Israël est un des fruits de la Shoah, ce qui est complètement faux. C'est un déni historique, puisque je vous le rappelle, d'abord le mouvement politique sioniste et politique créé à la fin du 19e siècle a été créé plus d'un demi-siècle avant la Shoah. Et je vous rappelle aussi que durant ces 20 siècles d'exil, le peuple juif a toujours manifesté son désir de constituer reconstituer l'État juif. Et puis à travers les siècles même, je vous rappelle que Napoléon Bonaparte, par exemple, lors de sa campagne de Russie, il avait promis aux juifs de ce pays de les aider à rentrer en terre d'Israël et de reconstituer l'État juif. Donc c'est pour vous dire que, même si évidemment c'était une démagogie de la part de Napoléon, mais je veux dire que dans l'imaginaire même occidental et dans le monde, on pensait toujours que ce projet n'était pas complètement exclu. Et aujourd'hui, l'État d'Israël existe. Si lors de l'apparition du mouvement sioniste, le monde juif a été divisé entre ceux qui jugeaient bon de le soutenir et d'y adhérer, et ceux qui ont décidé de s'y opposer et de le combattre. Hein. C'est le cas des juifs religieux orthodoxes non sionistes. Je dirais même qu'ils sont plus asionistes qu'antisionistes.
Oh.
Pour les uns, sionistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sionistes, hein, mais c'est pas forcément qu'ils
sont
anti-sionistes.
Tout à fait.
En tout cas, vers la création de l'État d'Israël, et c'est le cas en tout cas aujourd'hui, hein, lorsqu'on parle par exemple du parti Chasse ou de tous ces partis religieux qui ne sont pas sionistes dans la mesure où ils ne sont pas actifs, hein, ils n'ont pas un rôle actif dans la construction du pays, ils ne font pas l'armée, ils ne contribuent pas, ils ne payent pas les impôts, par exemple, entre autres, mais ils sont quand même, ils ne sont pas contre l'idée de création d'État d'Israël, et ils défendent l'État d'Israël. Donc ils ne sont pas antisionistes tels qu'on entend aujourd'hui le mot antisionisme, mais ils sont asionistes, tout simplement. Et pour ces gens-là, créer un pays permettant aux Juifs de vivre, créer un État juif, si vous voulez, reconstituer l'État juif de l'Antiquité, détruit par la volonté divine selon eux, est inacceptable, car seul le Messie, hein, le Mashiach, peut le rétablir. Pour les autres, hein, pour ceux qui sont devenus la majorité, créer un État, un pays permettant aux Juifs de vivre sans être considérés comme une minorité tout juste tolérée, et dans le meilleur des cas, bien entendu, était un immense pas vers une libération nationale. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire cela ? Ça veut dire que pour ceux qui sont contre la création d'Israël, ceux qui étaient contre la création d'Israël à ce moment-là, notamment les représentants du parti Agudat Israël, qui étaient représentés dans l'Assemblée nationale juive, la Sefat HaNefarim, lors de la période du Yishuv, c'est-à-dire le mini-État juif constitué sous le mandat britannique avant la création de l'État d'Israël en 1948. Et pour ces gens-là, donc ces hommes en noir de l'Agudat Israël, ces hommes en noir comme les appelle Ilan Galtzamer, pour ces gens-là, si vous voulez, ils ne sont pas contre le principe même de création d'Israël. Ils sont contre le timing et non pas le principe.
Le timing.
Ils pensent le timing, c'est-à-dire que c'est le Messie qui va venir reconstituer l'État d'Israël. Donc ils sont pour l'État d'Israël, mais ils veulent juste attendre que le Messie revienne pour faire cela. Et pas que ce soit l'œuvre des humains. Or, c'est tout le contraire qu'on présente aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, il y a une secte juive très, très active, mais très infime aussi, hein, c'est-à-dire elle fait plus de bruit que ce qu'elle ne représente réellement.
D'accord.
Qui s'appelle les Neturi Karta. Ces gens-là, ils sont interviewés par les médias arabes, hein, on les présente comme les bons juifs, comme ceux qui sont les véritables héritiers de Moïse, hein, c'est les seuls qui ont vraiment bien compris le message mosaïque, et même, ils ont même été accueillis par le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, qui les présente comme des juifs tolérants, comme...
Étrange.
C'est vraiment le modèle, ce que devraient être les juifs. Alors qu'ils ne sont une infime minorité, ils ne feraient même pas 1%, même pas 0, je ne sais plus combien. C'est une infime minorité qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. On les retrouve, même en Israël, on les retrouve parfois. Hein. Il y avait le rabbin Blo du quartier Mea Shearim. Il y a un certain nombre de personnalités comme ça, connues pour leur position antisioniste et qui sont proches. En tout cas, ce courant-là, aujourd'hui, n'existe plus.
Okay. Et, Masri Fekir, pouvez-vous répéter le nom de cette secte exactement, juste pour être sûr que je le retienne?
Les Neturi Karta. N-E-T-U-R-E-I, et puis espace, hein, Karta, K-A-R-T-A.
Parfait, j'en prends note.
Alors, si aujourd'hui la plupart des juifs du monde, l'écrasante majorité des juifs du monde, sont sionistes dans la mesure où ils admettent, ils pensent que l'État d'Israël, c'est une bonne chose que cet État existe, et que cet État refuge existe et permet aux juifs de s'émanciper, c'est une éclatante victoire du projet sioniste, et je dirais même que le sionisme aujourd'hui, devrait avoir une nouvelle mission, un nouvel objectif. Si jusque-là, la mission du sionisme était d'intégrer les juifs ou la plupart des juifs du monde en Israël, eh bien aujourd'hui, une nouvelle mission ou une des nouvelles missions du sionisme devrait être d'intégrer non plus les juifs en Israël, mais d'intégrer aussi et parallèlement Israël au Moyen-Orient. Parce que le principal défi auquel est confronté aujourd'hui Israël, c'est le défi de son intégration, et non pas le défi de la paix. Parce que la paix a été signée avec plusieurs États arabes, en tout cas plusieurs États perçus comme étant arabes, parce que l'Égypte, moi je ne le considère pas comme un pays arabe, mais bon, bref, c'est un État membre de la Ligue arabe. Disons que c'est un État arabe, mais pas un pays arabe. Un État dans le sens où l'institution étatique est arabe, parce qu'elle est gouvernée par des gens qui sont arabes et pan-arabes, mais le pays en tant que nation n'est pas arabe. Mais en tout cas, bref, donc deux États membres de la Ligue arabe ont signé un accord de paix avec Israël, un accord de paix avec une représentation diplomatique. Et d'autres pays, hein, ont reconnu Israël de façon ou d'une autre, dans la mesure où il y a des bureaux d'intérêt qui existent, des échanges pour des raisons commerciales et économiques, et dans une moindre mesure politique. Je parlerai du Qatar, je parlerai du Sultanat d'Oman, même si avec Oman les relations ont été provisoirement rompues depuis la deuxième intifada. Et il y a aussi la Tunisie, le Maroc, où il y a des bureaux de représentants, des bureaux d'intérêt, c'est le terme consacré, et des bureaux d'intérêt qui existent entre les deux pays. On voit, et moi je suis, je me considère comme un témoin de cet échec du processus de paix entre ces pays, c'est que moi, vous savez que j'ai fait mes études en Égypte, et que je suis né après ce processus après 1979, donc je suis né au moment où déjà Israël et l'Égypte étaient en paix, Et puis, je constate que dans les manuels scolaires égyptiens, le mont Israël ne figure pas sur les cartes. Dans les cartes officielles du ministère des Affaires étrangères, le mont Israël ne figure pas. On vous écrit la Palestine et ça comprend la Cisjordanie, la bande de Gaza et tout Israël. Donc, et dans les médias, lorsque vous avez par exemple, vous regardez les nouvelles et que vous avez, au journal télévisé par exemple, on vous montre la carte de la région, il n'y a pas, le mot Israël ne figure sur aucune carte officielle, ni officieuse d'ailleurs. Alors aujourd'hui, bon, il y a un petit peu les chaînes, chaînes arabes, pan-arabes entre guillemets, qui, Al Jazeera ou Al Arabiya, eux maintenant ils mettent Israël, mais parce que eux, ce sont des chaînes satellitaires.
Subissent
des pressions internationales. Mais les chaînes publiques locales et même les chaînes satellitaires égyptiennes, par exemple, ou d'autres pays du Moyen-Orient, le nom Israël ne figure pas sur la carte.
Alors
la raison première, c'est que ces pays ne reconnaissent pas Israël.
Parfait. Voilà.
Il faut le dire, c'est une vérité.
Voilà.
Une fois, il y avait un ancien premier ministre égyptien. Il n'est pas si ancien que ça. C'était il y a 6 ans. Il s'appelait Atef Abed. Et il a dit, une fois, il a déclaré à la télévision publique en disant, la première chaîne de la télévision publique, en disant, écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez la guerre contre Israël? Je vous promets que moi aussi je la veux. Que si l'Égypte avait les moyens de faire la guerre à Israël, l'Égypte n'aurait jamais hésité à le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire. Alors après, les Égyptiens s'expliquent en disant que ce sont des déclarations pour, ils appellent ça en arabe, l'istihlak al-mahalli, c'est-à-dire la consommation locale. Ça veut dire pour calmer le peuple. Mais c'est pas vraiment ce que pensent les dirigeants. Et puis ce qui compte, c'est ce qu'ils disent en anglais. Mais c'est pas vrai du tout. Parce que ce qu'ils disent en anglais est complètement différent de ce qu'ils disent en arabe. Le plus grand spécialiste de cette technique, c'était Yasser Arafat. Lui, vraiment, c'était... il avait montré... c'était vraiment... Le héros de cette méthode, puisque en arabe, c'est vraiment le contraire de ce qu'il disait en anglais. Il appelait franchement à la destruction d'Israël, ce qu'aucun chef d'État arabe n'oserait le faire aujourd'hui, y compris le président syrien, qui est un des plus extrémistes. Mais les ministres, les premiers ministres, eux qui sont des hommes politiques de deuxième plan, eux, ils peuvent se permettre de faire ce genre de déclarations, puisqu'elles sont destinées à l'opinion publique locale. Et je dois dire que c'est un obstacle majeur. Et l'intégration d'Israël, dans l'obstacle à l'intégration d'Israël, évidemment que les voisins d'Israël portent la plus grande responsabilité. Israël a une moindre responsabilité. Israël a quand même une responsabilité, une toute petite responsabilité, étant donné que la balle n'est pas dans son camp, en tout cas dans ce domaine. Et je dirais qu'il faut cesser du côté israélien comme du côté occidental de considérer Israël comme un État occidental. Israël n'est pas un pays occidental. Les Juifs ne sont pas des Occidentaux. Même les
Mais
Juifs
c'est spécial, ça. Vous avez raison, parce que sur le plan international, ils sont perçus comme tels. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont un lien direct avec les Américains, et c'est pour ça que plusieurs individus croient qu'ils sont occidentaux. Je ne sais pas.
Mais vous savez, l'Arabie Saoudite est aussi un pays très allié aux Américains.
C'est vrai.
C'est aussi le cas pour les Turcs, qui ont un lobby influent et qui a empêché l'Amérique jusqu'à aujourd'hui de reconnaître le génocide arménien. Donc,
très vrai.
Israël n'est pas le seul allié des Occidentaux. Et évidemment, cette alliance est très claire parce qu'elle contraste avec la mauvaise relation qui serait là avec la plupart des nations du monde, malheureusement, l'Occident, aussi l'Europe, on a vu ça à Durban. Mais bon, bref, j'en passe. Mais les joueurs de foot israéliens jouent avec les joueurs de foot européens pour les matchs de la Coupe du Monde ou tout ça. Bon, tout ça c'est compréhensible pour des raisons de sécurité et parce que les Arabes ne veulent pas jouer avec les Israéliens.
Exact.
De la même façon que vous savez qu'Israël jusqu'en 2002, je crois, ne faisait pas partie d'un groupe régional au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Depuis 2002, je crois que c'est 2002, Israël fait partie d'un groupe et c'est le groupe européen. Il en fait partie provisoirement. Selon le terme qui a été officiel, donc c'est provisoire, hein, c'est reconnu comme étant provisoire, on est en attendant qu'Israël rejoigne le groupe, un groupe du Moyen-Orient. Mais tout cela est compréhensible, mais ce qui n'est pas du tout compréhensible, c'est que dans toutes les statistiques économiques, par exemple, lorsqu'on présente, lorsqu'on parle de l'économie en Occident, lorsqu'on fait des études comparatives sur l'évolution du PNB, etc., On met toujours Israël, on prend toujours Israël parmi les pays occidentaux. Et je trouve ça, cela scandaleux. Pourquoi je trouve cela scandaleux? Parce que cela donne raison à ceux parmi le camp adverse qui disent qu'Israël est le fruit de la colonisation occidentale, qu'Israël est une épine occidentale plantée au Moyen-Orient, et cela est inadmissible. Israël est un pays du Moyen-Orient. La grande partie des Israéliens sont des gens originaires des pays du Moyen-Orient ou des pays arabes, enfin des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Et puis, tout en Israël est Moyen-Oriental. La langue hébraïque est une langue très proche de l'arabe. Quand on dit qu'Israël est un pays occidental, mais la langue hébraïque, c'est la langue la plus proche de l'arabe. L'arabe est beaucoup plus proche de l'hébreu que du persan ou que du turc. Et puis le judaïsme est une religion orientale aussi. C'est la référence théologique première de l'islam et de la chrétienté orientale. Alors dire qu'Israël est un pays occidental, c'est là, je trouve ça inadmissible. Et malheureusement...
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Massri Fiki, pour le fait qu'ils ne sont pas occidentaux. Mais ils ont des liens très forts sur le plan du commerce, sur ce plan-là, avec les Américains. Et c'est seulement pour cela qu'ils sont associés à des occidentaux. Voilà.
Bien sûr, mais on peut très bien être associé à des occidentaux. C'est le cas de nombreux États dans le Moyen-Orient, des pays du Golfe et autres qui sont très alliés aux occidentaux.
C'est vrai.
Sans pour autant être considéré comme un pays occidental, parce que le salut d'Israël ne viendra jamais de son déracinement. Israël est un pays qui a ses racines au Moyen-Orient, est un pays véritablement Moyen-Orient. C'est pas du tout un pays qui a vocation à s'assimiler au Moyen-Orient, à s'arabiser ou à s'islamiser. C'est un pays distinct. Le Moyen-Orient est une région plurielle, cosmopolite. Au Moyen-Orient, il y a de nombreuses communautés. Il n'y a pas que des Arabes musulmans sunnites. Il y a aussi d'autres confessions, d'autres ethnies, d'autres langues, d'autres minorités nationales, d'autres collectivités nationales, parce qu'ils ne sont pas toujours minoritaires. Mais alors Israël a peut-être la particularité d'être le seul pays qui est doublement minoritaire. C'est-à-dire, vous avez au Moyen-Orient des pays... Alors le Moyen-Orient, qu'est-ce que le Moyen-Orient? Alors je dirais rapidement que le Moyen-Orient, c'est la Turquie, l'Iran, l'Égypte et tout ce qui est au milieu.
Ok, d'accord.
Oui. Si on s'éloigne un peu de l'Égypte, où? Alors la Libye, c'est plus l'Afrique du Nord.
D'accord.
Le Soudan, d'ailleurs la Libye, ça fait partie du Maghreb dans la conception arabe. En français en tout cas, on désigne pour Maghreb Tunisie, Maroc, Algérie, mais parce que c'est la partie du Maghreb qui a été colonisée par la France.
Par la France, oui.
Mais le Maghreb en arabe, peut-être qu'il est désigné en arabe, il comprend aussi la Libye et la Mauritanie. Hein. Donc, qui est composé de 5 pays. Le Soudan, vous êtes déjà dans la corne africaine, hein, donc c'est pas du tout le Moyen-Orient. L'Afghanistan, c'est un pays très proche du Pakistan, donc vous êtes déjà aux Indes. Et l'Azerbaïdjan, là vous êtes plutôt proche de l'Asie centrale, donc le Moyen-Orient, les frontières du Moyen-Orient se limitent à la Turquie, l'Iran, l'Égypte et tout ce qui est au milieu. Après, il y a des visions un peu fantaisistes et journalistiques qui peuvent aller jusqu'au Pakistan pour pouvoir traiter de la problématique d'Al-Qaïda, ou qui peut se limiter au Proche-Orient lorsqu'on parle du conflit israélo-arabe, ou alors le président américain va venir nous parler du Grand Moyen-Orient, qui va du Maroc jusqu'au Pakistan, une certaine vision, si vous voulez, pudique de désigner le monde musulman, pour ne pas dire le monde musulman. Mais le Moyen-Orient, dans ses frontières classiques, c'est la Turquie, l'Iran, l'Égypte, tout ce qui est au milieu. Et bien dans ce Moyen-Orient, vous avez des peuples, des nations, qui ne sont pas arabes, mais ces nations sont généralement musulmanes. Ceux qui ne sont pas arabes sont généralement musulmans. Il s'agit notamment des Turcs, des Iraniens et des Kurdes. Et après, vous avez des collectivités, des communautés qui, eux, ne sont pas musulmanes, mais généralement, ils sont arabes. C'est le cas des chrétiens arabes et des druzes, qui sont aussi arabes. Les Israéliens sont les seuls à être à la fois non-arabes et non-musulmans. Donc, ils sont doublement minoritaires. C'est un peu le cas de l'Arménie, si on considère l'Arménie comme faisant partie du Moyen-Orient, ce qui n'est pas du tout le cas, mais il y a d'importantes communautés arméniennes au Moyen-Orient, notamment au Liban, en Syrie et en Égypte. Et ces gens-là, ils ne sont ni arabes ni musulmans. Donc, Israël est doublement minoritaire. En tout cas, c'est la seule communauté doublement minoritaire qui a un État, puisque c'est un État, et non arabe et non musulman. Et évidemment, cela pose un certain nombre de problèmes dans une région où les minorités sont très maltraitées. Alors là, en l'occurrence, c'est une minorité qui dispose d'un État.
Enfin, vous dites minorité, mais par contre, ils ne sont pas si minoritaires que cela sur le plan de l'armée. Je tiendrai juste à vous rappeler là, qu'en ce moment, il y a 11 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne. Et ça vient tout juste de se produire, ça fait à peu près quelques instants, là.
Oui, mais, c'est-à-dire, je ne comprends pas trop ça. Minorité dans le sens que c'était un peuple, minorité dans le sens numérique, hein. Mais l'armée israélienne est relativement plus puissante que les armées voisines. Alors, je ne sais pas si elle est plus puissante que les armées voisines réunies.
Voilà.
Elle a été peut-être à un moment de l'histoire. Je ne suis pas persuadé qu'elle le soit aujourd'hui. Elle est en tout cas, je pense qu'elle serait incapable de faire face seule à la menace iranienne, par exemple. Après, évidemment que contre une guerre de guérilla, une armée est toujours plus puissante. Contre des milices, contre des organisations militaires non étatiques. Une armée est toujours... je suis persuadé que l'armée du Qatar ou de Bahreïn serait capable d'écraser des milices palestiniennes sans difficulté.
D'accord.
Malheureusement, il y a des victimes dans ces affrontements. C'est
exact.
Très regrettable. Et il faut tout faire pour sauver la vie des civils et pour épargner les civils. C'est une évidence. Et toute vie humaine est sacrée, et la vie d'un Israélien n'est pas plus importante que celle d'un Palestinien, d'un Qatari ou d'un...
Non, tout à fait.
Oui. En Israël, si vous voulez, l'échiquier politique israélien se divise en deux parties. Donc il y a la droite, je ne vais pas faire des choses que vous connaissez déjà, hein. Donc la droite et la gauche, hein, la droite traditionnelle, classique, le Likoud, puis après il y a une droite un peu plus extrême, plus nationaliste, qui flirte un peu avec les partis religieux sionistes, et puis il y a la gauche, donc la gauche classique travailliste, et l'extrême gauche qui est le parti Meretz. Après il y a des communistes qui s'excusent, et les partis arabes qui, bon, je ne sais pas si on peut les mettre à gauche, mais ils votent à gauche pour les élections, pour les grandes élections, ils soutiennent les premiers ministres de gauche. Et puis les seuls qui ne sont pas sionistes, donc vous avez le parti communiste qui est anti-sioniste, les partis arabes qui sont aussi anti-sionistes généralement, pas les arabes, hein, les partis arabes, parce qu'il y a des arabes qui font partie des partis sionistes, hein, notamment des druzes, hein, mais aussi des musulmans, hein, dans le parti travailliste ou le Likoud. Et paradoxalement,
oui,
et un grand paradoxe, c'est que nous trouvons dans la gauche qui est toujours... Moi, je ne suis pas du tout anti-gauche, hein, je ne suis ni de droite ni de gauche, j'essaye d'exposer, en tout cas dans mes analyses, j'essaie d'être le plus neutre possible. La gauche, qui s'est perçue comme la frange la plus modérée, la plus tolérante de la société israélienne, celle qui est... Et c'est extraordinaire parce que le discours, s'il y a un discours colonialiste quelque chose de colonialiste dans le discours d'une partie de la classe politique israélienne, c'est bien celui de la gauche, parce que vous avez une certaine gauche bourgeoise pro-européenne dans la mesure où elle se considère européanophile, si vous voulez. Et qui présente systématiquement Israël comme faisant partie du Moyen-Orient et qui explique tout par le progrès économique. Alors, qui vous dit, je ne veux pas citer de nom, hein, mais il y a notamment un grand homme politique israélien qui a à peu près eu tous les postes et qui écrit des livres de façon périodique. Hein, il y a un livre tous les deux ans en parlant de la paix, le temps de la paix, je ne sais pas quoi. Et il y a des théories un peu à lui. Et bien alors, il vous explique qu'Israël est un pays qui est voué à l'intégration au Moyen-Orient parce que c'est un pays qui pourrait faire beaucoup pour faire progresser l'économie des pays arabes. Une fois, je me rappelle, il y avait une usine égyptienne en faillite. Alors, on se vantait d'avoir tenté de sauver cette usine en donnant des subventions à cette usine. Enfin, on pense que par l'argent, qu'on peut acheter la paix. Or, la paix ne s'achète pas. D'abord, elle ne s'achète pas parce que les gens d'en face, ils ont une dignité. Et ensuite, elle ne s'achète pas parce que l'État d'Israël n'est pas légitime parce qu'il a le high-tech ou parce qu'il est développé sur le plan économique ou autre, mais il existe parce que c'est son droit d'être ici. Si l'État d'Israël avait le niveau économique du Sierra Leone, il serait aussi légitime, parce que Israël n'est pas légitime parce qu'il a plus de moyens matériels que ses voisins, mais il existe parce que s'il a un droit historique, il a un patrimoine historique et il est là comme tous les peuples de la nation de la région qui était là depuis auquel on a promis l'indépendance politique au moment de Versailles lors des futurs traités qui ont assuré le démantèlement de l'Empire ottoman. Mais comme tout comme la nation kurde, ils n'ont pas eu leur État, et il a fallu attendre 1948 pour que l'État d'Israël accède à l'indépendance. Mais même avant que l'État d'Israël accède à l'indépendance, il y avait une très importante communauté juive en Palestine, mandataire, et la langue hébraïque est la deuxième langue du pays, après l'arabe.
Okay.
Donc, voilà, si vous voulez. Alors aujourd'hui, quand on vient vous dire Israël, c'est un pays occidental, ça se ferait le lien entre l'Orient et l'Occident. De toute façon, Israël, c'est une société... oui, qu'Israël soit une société cosmopolite, je l'admets. Et qu'Israël soit une société moderne, je l'admets aussi. Mais un pays moderne, ça ne va pas... C'est pas du tout contradictoire au Moyen-Orient. On peut très bien être un pays à la fois moderne et faisant partie du Moyen-Orient. Israël, à mon avis, ressemble beaucoup au Liban, par exemple. Le Liban aussi est un pays très cosmopolite. Le Liban aussi est un pays moderne. Le Liban aussi est une démocratie, même si elle est très faible à cause des agences extérieures. Et il y a beaucoup de ressemblances, hein. La structure du pays, le poids du communautarisme, c'est le communautarisme dans le sens objectif du terme, hein. Et il y a beaucoup de ressemblances entre les deux pays, même ce sont deux pays d'un point de vue du nombre de populations et de la superficie, ils sont tout à fait comparables. Et aujourd'hui, il faut arrêter de considérer Israël comme un pays occidental. Il faut l'admettre dans le club du Moyen-Orient. Il faut toujours parler d'Israël systématiquement comme un pays faisant partie du Moyen-Orient, parce qu'il n'y a pas d'autre perspective.
Selon vous, Masri, qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à partir de dès maintenant pour que on s'enlève cette idée que Israël est un pays occidental? Qu'est-ce qui pourrait être fait de la part des dirigeants pour cesser de percevoir cela?
Je pense que ce qui est vrai...
Parce que concrètement, je vois pas encore, je ne vois pas encore de changement aujourd'hui. J'ai beaucoup plus l'impression qu'on s'enlise toujours avec ces histoires de bombardements à gauche et à droite et de guéguerres qui ne se terminent jamais.
Vous savez, c'est pas parce qu'il y a la guerre qu'Israël ne fait partie du Moyen-Orient. L'Iran et l'Irak ont été en guerre pendant 8 ans, une guerre dévastatrice qui a fait 1 million de morts, et d'accord, pour autant les deux pays faisaient partie de la même région.
C'est vrai.
Donc ça n'a rien à voir. Je pense que ce qui fait que dans la tête des gens, Israël ne fait pas partie du Moyen-Orient, c'est qu'on a toujours une vision arabe du Moyen-Orient. Et favoriser cette idée selon laquelle Israël fait partie du Moyen-Orient revient à donner plus d'importance à des pays non arabes au Moyen-Orient. C'est-à-dire, il faudrait considérer que il faudrait mettre l'accent sur le caractère moyen-oriental de l'Iran, de la Turquie. Et d'ailleurs, ce qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'avec en parlant de l'Iran, on parle des liens entre l'Iran et l'Irak. L'Iran, si vous voulez, s'approche davantage du Moyen-Orient, et le Moyen-Orient le centre de gravité du Moyen-Orient est plus aujourd'hui vers l'Est. Avant, il y a très longtemps, il était en Égypte. Après, il s'est un peu décalé vers la Jordanie, enfin la région un peu, le Proche-Orient, si vous voulez. Et au fur et à mesure que le conflit, la situation conflictuelle va vers l'Est, avec la chute de Saddam Hussein et les circonstances que nous connaissons qui ont lieu en Irak, et l'implication de l'Iran dans ce conflit de façon indirecte, en parlant en plus de la menace nucléaire iranienne, vous savez, ça va plus vers l'Est. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui explique bien la marginalisation de l'Égypte, qui n'est plus l'acteur clé de tout ce qui se passe au Moyen-Orient comme avant, si vous l'avez remarqué, d'ailleurs c'est quelque chose de très révélateur, de très révélatrice.
Oui.
Le président Bush, lors de sa tournée au Moyen-Orient, il n'a pas commencé par l'Égypte, il a fini par l'Égypte. L'Égypte est le dernier pays de sa tournée. Or, dans la tradition, dans le passé, c'était toujours le premier pays qu'on visitait quand on arrive au Moyen-Orient. Et ça explique donc la marginalisation de l'Égypte et d'autres pays de la région. C'est que le centre de gravité du Moyen-Orient aujourd'hui va plus vers l'Est. Et cela favorise l'intégration, en tout cas dans la tête des gens, dans les mentalités, d'un nouveau pays qui n'est pas du tout arabe, et c'est l'Iran. Et alors on parle aujourd'hui, les journalistes soulignent toujours, attention, l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays où on parle persan, c'est un pays différent, les musulmans ne sont pas de la même confession que la plupart des musulmans des pays arabes, ils ne sont pas sunnites, ils sont chiites. Donc on met un peu l'accent aujourd'hui, en parlant de l'Iran, on met l'accent sur les différences et les particularités de chacun des deux camps. Et cela favorise l'intégration d'éléments non-arabes au Moyen-Orient. Il faut rompre avec l'appellation monde arabe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'une communauté arabophone unie par le partage d'une langue commune. C'est une idée, c'est une excellente idée, je trouve. D'ailleurs, c'est très bien de profiter de partage d'une langue commune pour faire des projets et pour contribuer à des rapprochements entre États. C'est extraordinaire, hein. Comme il y a la francophonie, on pourrait aussi parler de la turcophonie qui s'étend jusqu'aux portes de la Russie, qui comprend l'Asie centrale, et c'est extraordinaire. Mais après, dire qu'il n'y a de monde dans cette région que le monde arabe, que c'est une région arabe, cela, si vous voulez, n'est pas respectueux envers les non-arabes du Moyen-Orient et n'est pas du tout constructif, parce que c'est une vision exclusiviste. Elle exclut une grande partie du Moyen-Orient qui n'est pas arabe. Et je crois que cette vision d'un Moyen-Orient cosmopolite est indissociable de la problématique d'intégration d'Israël au Moyen-Orient. C'est-à-dire, je crois que les deux sujets sont liés. Pour qu'Israël s'intègre au Moyen-Orient, il faut favoriser l'idée selon laquelle le Moyen-Orient n'est pas seulement arabe, et qu'il y a aussi la Turquie, l'Iran, les Kurdes, hein, et un certain nombre de minorités nationales. Donc voilà ce que j'en pense. Je ne sais pas qu'est-ce que vous, de votre côté, vous en pensez, et si vos auditeurs, ce que vos auditeurs vous
dites. Au niveau du Québec, ça va peut-être vous paraître drôle, Masri. Je voulais aborder un peu le sujet. Les gens sont très pro-palestiniens. Au niveau des journalistes en général, que ce soit, je vais vous nommer les quotidiens que nous avons ici, que ce soit au niveau du Journal de Québec, que ce soit au niveau du journal Le Soleil, que ce soit La Presse, je n'ai jamais vraiment compris et saisi encore aujourd'hui pourquoi, Israël était perçu comme occidental, d'accord? De notre côté, d'accord? Chose que moi, je n'ai jamais perçue d'Israël. Je n'ai jamais saisi pourquoi le Québécois moyen, étant au niveau du Québécois qui est arrivé, qui est bien à l'aise financièrement parlant et qui a une bonne éducation et tout, est pro-palestinien. Juste pour vous donner un exemple, il y avait eu une manifestation à Montréal, Masri, et cette manifestation était reliée directement. Il y a eu le drapeau du Hezbollah qui a été érigé durant cette manifestation de gens qui supportaient le Hezbollah, car Israël avait tiré sur, bien sûr, je ne me rappelle plus exactement à quel endroit, je pense que c'était la Syrie, qui avait été bombardé, qui avait été attaqué. C'est un dossier qui est très complexe de notre côté. J'ai encore beaucoup de difficultés à le saisir parce que je suis plutôt à saveur. Les gens considèrent que je suis à saveur pro-américaine et les Américains supportent Israël. Beaucoup de gens du côté québécois croient que Israël, vu qu'ils sont supportés par les Américains, est considéré comme un ennemi. Comme un pays occidental, chose qui n'est pas le cas. Voilà un peu le topo, une idée très en surface de ce qui se passe de notre côté, Masri.
Oui. Alors, dans ce que vous dites, il y a trois aspects, il y a trois choses différentes et trois volets, si vous voulez. Il y a le volet palestinien, il y a le volet syro-libanais, parce qu'il est indissociable, il n'est pas libanais ou syrien, il est syro-libanais, et il y a le volet relatif à l'association Israël-États-Unis qui se fait dans la tête des gens. Alors, en ce qui concerne le volet palestinien, pour commencer, vous dites qu'ils sont pro-palestiniens à Montréal, mais moi, je suis très pro-palestinien. Moi, je soutiens la démocratisation et la réforme au sein de l'autorité palestinienne. Je soutiens.
Mais la Palestine, est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque chose que la Palestine n'existe pas encore vraiment?
Écoutez, pour moi, la Palestine, c'est comme si vous disiez, par exemple, l'Égypte ou la l'Égypte dans le sens historique du terme, ou la Mésopotamie, ou
la
Syrie.
L'Égypte existe, la Syrie existe, mais la Palestine n'existe
pas. La Syrie, l'apostrophe A.
D'accord. Mais la Palestine, on peut s'entendre tout de suite sur... On peut s'entendre maintenant sur quelque chose. Ma Syrie, Féki, je m'excuse, mais on peut s'entendre sur quelque chose que la Palestine n'existe pas du tout.
Non, mais laissez-moi finir. Je pense que la Palestine comprend.
Mais vous ne
Israël,
répondez pas à la question.
Israël et la Jordanie, c'est-à-dire c'est une région beaucoup plus vaste qu'Israël.
Cher ami, vous ne répondez pas à la question, Messri Fiki, oui. Vous ne répondez pas à la question. La Palestine n'existe pas encore.
Vous parlez de la Palestine en tant qu'État?
Voilà.
Alors, en tant qu'État, c'est une autre chose. En tant qu'État, si vous voulez, la chose est la suivante. Il y a des Palestiniens qui existent. Pour la plupart, ils sont juifs, parce que les Israéliens sont des Palestiniens, il ne faut pas l'oublier, d'accord ? Ils avaient une nationalité palestinienne avant la création de l'État d'Israël. Et puis, dans toute l'histoire du monde, au plus fort de l'antisémitisme européen, lorsqu'on disait à un juif dehors, on disait « juif retourne en Palestine ». Donc, même dans l'imaginaire européen, le mot « palestinien » a toujours été associé au mot « juif ». Et puis, je vous rappelle aussi qu'une des associations juives les plus actives en France avant la création d'Israël était l'association d'amitié franco-palestinienne, et c'est une association d'amitié franco-juive. Hein, donc on désignait par palestinien le mot palestinien donc était très lié aux juifs. Et après, aujourd'hui, il y a des Arabes qui habitent dans ce territoire, dans une partie du territoire israélien qui est disputé. C'est la Judée-Samarie ou la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ces gens-là, il faut leur trouver une solution, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où le transfert de population ne se fait plus, ce n'est plus moral, et puis ce n'est plus réaliste non plus, parce que les pays voisins d'Israël, lorsque vous dites par exemple il faut que les Israéliens... Par exemple, l'extrême droite en Israël, l'extrême droite entre guillemets, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'extrême droite l'extrême droite en Europe, mais c'est plus... Et l'extrême droite, si vous voulez, dans le sens de géographie politique liée à la problématique palestinienne, ils vont vous dire que les Palestiniens ils sont jordaniens, puisqu'il est vrai que la plupart des Jordaniens sont d'origine palestinienne et qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre les Jordaniens et les Palestiniens sur le plan culturel et autres. Alors ils vont vous dire qu'ils doivent aller en Jordanie. Mais le problème, c'est que la Jordanie ne veut pas. La Jordanie ne l'acceptera jamais, et par conséquent, cette proposition n'est pas du tout réaliste. Après, il y a un problème moral, c'est qu'il y a des gens qui habitent
mais
sur cette terre.
Mais en réalité, il n'y a pas de peuple palestinien. On peut s'entendre sur cela, parce que le mot Palestine...
Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, entre 1948 et 1967... avant que la Judée-Samarie, Cisjordanie et la bande de Gaza ne soient occupées par Israël et annexées pour certaines parties, notamment la Jérusalem, l'agglomération de Jérusalem, il n'y a pas eu d'État palestinien sur cette. D'ailleurs, on ne parlait même pas de Palestiniens. On parlait les Arabes de Palestine. En arabe, même le mot palestinien est un mot très récent. On l'utilise que depuis très récemment.
On parle des est-ce que je me trompe dans les années 1940 48 quelque chose comme ça le mot palestinien à quel moment on a inventé
c'est beaucoup plus avant que ça
c'est vrai attendez un instant le mot palestine est le nom donné par les Romains pour punir les Juifs de se révolter est-ce que c'est bien cela?
Oui, mais il faut faire la distinction entre deux choses différentes, entre le mot Palestine et le mot Palestine.
Oui, d'accord.
Le problème n'est pas qu'il n'y a pas Palestine.
La
Palestine est le nom d'une région qui comprend Israël et la Jordanie.
Tout à fait.
Donc la Palestine, moi je n'ai rien contre le mot Palestine. Mais les Palestiniens, c'est là que ça pose un problème, c'est que les Palestiniens, je ne vois pas pourquoi on désignerait par Palestiniens uniquement ceux parmi eux qui sont arabes, parce qu'il y a aussi des Juifs palestiniens qui sont aujourd'hui israéliens, mais ils sont aussi palestiniens. Si vous voulez. C'est comme si on vous disait les Français sont européens. Est-ce qu'ils sont français ou européens? Mais ils sont français, ils sont européens parce que la France fait partie de l'Europe. Et c'est la même chose. Les Israéliens, ils sont israéliens, mais ils sont aussi palestiniens puisqu'ils seraient des parties de la Palestine. Si vous voulez, employez ce mot. Maintenant, si vous voulez employer le
mot Palestine... On ne peut pas employer ce mot, car la Palestine n'existe pas, n'est pas reconnue encore.
Non, mais Ismaël, je parle de la Palestine en tant que région historique, comme on parle de la Mésopotamie.
Oui,
tout à fait. Certes, un mot donné par les Romains
est
inacceptable pour les Juifs et pour d'autres. Mais bon, je veux dire, pour ceux qui veulent employer le mot, moi je leur répondrai, oui, d'accord, mais les Israéliens sont aussi palestiniens. Après, créer un État arabe, en l'occurrence État palestinien, puisque les Arabes qui veulent créer cet État se disent palestiniens et veulent l'appeler palestinien, c'est leur droit qu'ils l'appellent comme ils veulent. Ils veulent l'appeler palestinien, ils veulent l'appeler États-Unis d'Amérique, bis, ils veulent l'appeler Sri Lanka, c'est leur problème qu'ils l'appellent comme ils veulent, c'est leur État. C'est le jour où il sera créé, si cela a lieu. Le problème maintenant, c'est que comme vous dites, donc cette identité palestinienne s'est construite très tardivement, puisque même lors de la création d'Israël et même à la veille de la guerre des six jours de 1967, on parlait jamais de Palestine. On parlait de Palestine comme on peut parler de la Mésopotamie ou de noms un peu comme ça anciens donnés à des contrées du Moyen-Orient, mais on parle pas de Palestiniens. Les Palestiniens sont qui? C'est les Arabes de Palestine, comme il y a les Arabes de, je sais pas, les Arabes de du Sud-Liban, les Arabes du désert. C'est des Arabes, donc ils font partie du peuple arabe, du grand peuple arabe, mais il n'y a pas une spécificité palestinienne. Et il y a des Arabes, bien évidemment, ceux qui se disent palestiniens aujourd'hui sont des Arabes, tout comme les Jordaniens ou les Saoudiens. Il n'y a pas une spécificité palestinienne. Et un des paradoxes du panarabisme qui militait pour entre guillemets, la cause palestinienne, c'est que d'une part, il vous dit que tout Arabe est citoyen de tout pays arabe, ça veut dire un Syrien il est égyptien aussi, un Égyptien est syrien aussi, et donc en l'occurrence un Palestinien est peut aussi se considérer comme un Égyptien, puisque selon Nasser et ses amis, puisque les Palestiniens sont arabes, et puis en revanche ils n'ont jamais accepté de les intégrer dans ces pays, et là où ils les ont acceptés, ils les ont mis dans des camps pour les exhiber politiquement, dans une misère absolue. C'est notamment le cas de nombreux pays, en tout cas, mais même aujourd'hui, même dans les territoires administrés par l'autorité palestinienne, aujourd'hui, même en Cisjordanie et à Gaza, vous avez des camps. En réalité, ce sont des villes, ce sont de véritables villes qui s'appellent camps. On appelle ça le camp de Jenin. Mais vous allez au camp de Jenin, ce n'est pas un camp dans le sens classique où vous avez des tentes, vous voyez, et les gens ils ont l'électricité, ils ont internet, il y a des infrastructures, ce n'est pas un camp, mais ils appellent ça camp de réfugiés.
Ok, camp de réfugiés, parfait, d'accord.
Oui, ils appellent camp de réfugiés. Donc si vous voulez, il y a le volet palestinien, et nous avons aujourd'hui un problème. Le problème, c'est que il n'y a pas un leadership palestinien responsable. Jusqu'à très récemment, les Palestiniens disaient une chose en anglais et une autre chose en arabe. Ils ont toujours été incapables d'assurer leurs engagements en ce qui concerne les cessez-le-feu, en ce qui concerne de nombreuses questions. Et lors des négociations, ils y bloquaient sur des questions qui sont absolument inacceptables pour Israël, et en particulier la question des réfugiés palestiniens, entre guillemets aussi. Parce que dans l'histoire des réfugiés dans le monde, on est réfugié, mais le statut de réfugié ne s'hérite pas, ne se transmet pas de père en fils. Or, là, c'est le seul cas dans le monde où les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'un réfugié sont toujours réfugiés. C'est absurde. Et donc c'est pour ça qu'il y a une hésitation à utiliser le mot réfugié palestinien. Tant il est utilisé dans des textes juridiques, notamment l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies qui assure la protection et des réfugiés palestiniens. Mais autant on a du mal à utiliser ce mot parce que ce sont des descendants de réfugiés, non pas des réfugiés. Mais en tout cas, c'est une population qui est sans État, qui n'a pas la nationalité d'un État et qui doit un jour s'intégrer dans un pays. Alors le problème aujourd'hui, c'est que les Palestiniens... représentés par l'autorité palestinienne lors des précédentes négociations de paix. Ils ont toujours revendiqué la création d'un État palestinien. Alors, naturellement, quand vous voulez créer un État palestinien, vous n'allez pas le créer pour les réfugiés kosovars ou les réfugiés tchétchènes. Vous voulez créer un État palestinien pour qui? Pour les Palestiniens qui y vivent et les réfugiés palestiniens, n'est-ce pas? Alors, ils veulent créer un État palestinien, mais ils veulent que les réfugiés palestiniens, entre guillemets, réfugiés, s'intègrent non pas dans ce futur État palestinien, mais en Israël. ce qui est une absurdité préoccupante, parce que pour des raisons d'abord pour des raisons logiques, Israël n'a pas à intégrer les réfugiés palestiniens. Ce n'est pas le problème d'Israël. Ces gens-là, ils sont sortis lors de la guerre de 1948 et ils ont quitté le pays suite à l'appel des chefs d'État arabes. Et sur ce point, je voudrais quand même dire un mot. Et contrairement à d'autres qui sont restés et qui ont été naturalisés après la déclaration de l'État d'Israël, lorsqu'Israël a été créé, l'appel de Ben-Gurion était très clair. Ceux qui resteront dans le pays deviendront israéliens, qu'ils soient arabes musulmans, chrétiens ou autres. Vous ne connaissez pas encore, ou druzes. Et ceux qui partiront, par contre, ne pourront plus revenir. Aujourd'hui, on vous dit, oui, mais Israël les a expulsés. Mais si Israël avait expulsé les Arabes, alors Israël aurait expulsé tous les Arabes. Pourquoi Israël a expulsé seulement une partie? Et puis, donc, vous voyez, ce n'est pas du tout, oui. Quelque chose de... Alors, de nombreux, si vous voulez, témoignages même, prouvent que lorsque la guerre a éclaté, il y a eu des appels de dirigeants arabes incitant les juifs les arabes de la Palestine mandataire à quitter le pays pour permettre aux armées d'avancer plus facilement.
Okay.
Et là je pourrais vous citer par exemple un certain nombre de personnalités très rapidement. Je ne sais pas si j'ai les déclarations sous les yeux.
Je vous en veux pas que vous ayez pas la citation sous les yeux, mais est-ce que ce serait possible de pouvoir vous demander, par exemple, la semaine prochaine ou dans deux semaines, selon vos disponibilités, que vous nous parliez justement des débuts de la Palestine. Est-ce que ce serait possible, ça? Vous devez sûrement connaître vous devez sûrement connaître le dossier.
oui, bien sûr, avec plaisir. C'est-à-dire de quelle période exactement?
La période, c'est toujours un peu sur le même principe. Nous irions, exemple, le mardi comme aujourd'hui, voilà.
Non, quelle période de la Palestine, vous voulez dire?
Ah non, mais si vous pouvez nous faire un résumé des débuts de la Palestine, des débuts de la création, comment que la Palestine s'est créée, de quelle façon, ce serait intéressant, voilà.
Il n'y a aucun problème. Je voudrais juste parler donc du volet syrio-libanais pour finir avec cette histoire.
Certainement.
Donc nous avons maintenant parlé du volet palestinien, et maintenant on parle du volet syrio-libanais. Alors le volet syrio-libanais, en réalité, c'est le volet syrien. Parce que vous savez que le Liban est un pays qui a toujours été occupé par la Syrie. Il y a eu des ingérences, en tout cas occupé de façon... Et il y a eu toujours des ingérences très fortes de la part de la Syrie au Liban. Et c'est la Syrie qui a toujours fait entrer le Liban dans le cercle de la confrontation avec Israël. Jusqu'en 2000, Israël occupait le sud Liban, l'occupait en soutenant une milice libanaise chrétienne maronite qui s'appelle la milice de l'armée du sud, s'appelle l'armée du sud Liban, dirigée par le général Antoine Lahab, qui est aujourd'hui réfugié en Israël, qui habite dans la ville de Haïfa. Et en 2000, Israël se retire donc du Liban unilatéralement sous le gouvernement travailliste d'Ehud Barak. Pourquoi? Parce que la Syrie a toujours dit que le jour où Israël se retire du sud Liban, eh bien nous aussi on se retire de la Syrie. Les Libanais demandent à la Syrie de se retirer, les Syriens disent, mais nous on doit vous protéger, on est là pour vous protéger, nous sommes votre grand frère arabe, nous partirons le jour où le sud Liban sera libéré. Le Hezbollah dit, nous aussi on va déposer les armes, nous sommes un mouvement politique, mais nous on va le faire le jour où Israël va se retirer. Alors, Israël se retire véritablement en 2000. Un retrait qui a été applaudi par une partie notamment par la gauche israélienne qui pensait que c'était des dépenses inutiles, qu'on perdait ça n'avait plus de sens. Et puis une autre partie de la population israélienne, la droite, était contre parce qu'elle considérait que un retrait unilatéral serait perçu par les Arabes comme un signe de victoire, ce qui d'ailleurs a été aussi le cas, victoire de ce qu'ils appellent la résistance donc au Liban. Et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que Israël s'est quand même retiré. Le premier ministre israélien a envoyé une lettre donc à Kofi Annan pour lui demander de constater l'effectivité du retrait. Kofi Annan a répondu à Ehud Barak en lui disant que le retrait est effectif et que l'ONU donc approuve que le retrait a été total et que Israël n'occupe plus un seul mètre carré du Liban. Et c'est là que les Syriens commencent à gueuler en disant « Ah non, 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 mais il y a aussi la ferme de Sheba, c'est une petite poche comme ça, à la frontière israélo-libanaise, à la frontière israélo-libano-syrienne. Et il faut absolument la libérer. » Or, cette ferme de Sheba, elle a été occupée par Israël lors de la guerre des six jours, avec le plateau du Golan. Et, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait partie du territoire libanais, elle n'a pas été occupée dans le cadre de la campagne au sud Liban en 1982. Et voilà que les Syriens vous disent, et les Syriens et leurs alliés au Liban vous disent que non, le retrait n'est pas total, et par conséquent, nous Syriens, nous ne sommes pas obligés de nous retirer du Liban, et puis les milices ne vont pas être désarmées, en l'occurrence le Hezbollah. Là, Kofi Annan écrit une lettre au président syrien lui disant « Cher monsieur le président, vous savez que cette ferme de Sheba, pour nous, Nations Unies, elle fait partie du plateau du Golan et elle a été occupée a été prise à la Syrie et pas au Liban. Et donc, si vous voulez, vous, en tant que Syrien, dire qu'Israël ne s'est pas retiré complètement du Liban, écrivez-nous une lettre en disant que vous renoncez à vos revendications sur cette partie du plateau du Golan et que vous considérez qu'elle est libanaise, et à ce moment-là, nous considérerons qu'une partie du territoire libanais demeure occupée par Israël et nous demanderons à Israël de s'y retirer. Les Syriens n'ont pas répondu. C'est-à-dire que les Syriens, d'un côté, ils ne veulent pas renoncer à leurs revendications sur cette zone, et de l'autre côté, ils continuent à dire que c'est une zone qui a été occupée, qui a été prise au Liban, et donc c'est un territoire libanais occupé. Par conséquent, ils n'ont pas à se retirer du Liban, et le Hezbollah n'a pas à être démantelé, et il n'y a pas du tout à parler de paix ou de traité de paix entre les deux pays. C'est une absurdité. Et ça, oui, encore une fois, c'est parce que la situation n'est pas nette. Il faut avoir un discours clair et dire les choses de façon claire. Soit ce territoire est libanais, dans ce cas la Syrie le reconnaît, et dans ce cas-là Israël ne s'est pas complètement retiré du Sud-Liban, soit le territoire il est syrien, et dans ce cas-là Israël s'est retiré complètement du Sud-Liban, et donc dans ce cas-là, les milices doivent être démantelées, et Israël et la Syrie doit assurer son engagement de se retirer du Liban, étant donné que le pays a été libéré. Vous voyez, la chose n'a pas été faite et la Syrie a été évidemment obligée de se retirer plus tard à la suite de l'assassinat de Hariri et des circonstances dramatiques que nous connaissons aujourd'hui. Et le Hezbollah n'a toujours pas été démantelé. Même s'il y a les forces de la FINU qui occupent le Sud-Liban depuis la guerre israélo-hezbollani, mais le Hezbollah n'a pas été démantelé. C'est un parti politique qui dispose de missiles anti-char et anti-avions, ce qui est absolument inacceptable pour dans une démocratie digne de ce nom. Et qui est une milice qui reçoit des armes d'État étrangers et qui exerce en même temps un rôle politique dans le pays, qui détient des députés, qui ont été ministres à plusieurs reprises, et qui c'est absolument inacceptable. Hein, vous voyez. Donc voilà en ce qui concerne le volet syrio-libanais et ses principaux points de blocage.
Masri Fekki, j'aimerais vous réinviter. Est-ce que c'est possible de le faire la semaine prochaine?
Avec plaisir, Ismaël.
Ça va me faire extrêmement plaisir. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et je suis persuadé que ça éclaire davantage les auditeurs du www.rocky.com.
C'est un plaisir partagé.
Merci, Masri.
À quelle heure, Ismaël? À quelle heure?
Alors, votre heure sera la mienne. Si je vous dis 7h30, pour vous, c'est ce qui veut dire à peu près 13h30, plus exactement.
C'est un peu tard pour moi, parce que moi, je suis pas chez moi à 14h.
Ok, d'accord, vous n'êtes pas chez vous à 14h. Alors, si...
Sinon, on peut faire ça par exemple l'après-midi, vers 19h30.
Nous, on a notre émission est du lundi au vendredi, de midi à 16h pour vous, d'accord? Alors, l'émission Wake Up, on se réveille, et de midi à 16h. Alors, voilà, c'est les possibilités de notre côté.
Est-ce qu'on peut faire ça, par exemple, à midi 30?
Midi 30.
À partir de midi, je veux dire. Hein, midi ou midi 30.
Midi 30, il n'y a aucun problème pour midi 30, parce qu'à midi, vous savez ce que c'est une émission, on ouvre le bal. Alors, il n'y aura pas de problème. Je vous dis, attendez, un instant, on va faire ça comme ça live, parce que justement, c'est ça le naturel de cette station. Si je vous dis que le 29, un mardi, le 29 janvier 2008, nous pourrions reprendre l'exercice.
Le mardi.
le 29 de janvier.
29 janvier,
voilà.
À 12h30.
Donc. 12h30, voilà.
Ok, impeccable. C'est noté dans mon agenda.
Je vous remercie beaucoup, Masri.
Merci beaucoup, Ismaël.
Passez une excellente journée. Bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était Masri Fekhi que vous venez tout juste d'entendre. Merci aux auditeurs qui ont justement écouté. Si vous avez des questions, live@rockkick.com, MSN ou encore pour Skype, Christian,
oui.
Il est 8h06, je vais te demander de faire des sports tout de suite après ceci. On s'arrête un instant pour nous et Christian, ben c'est simple, tu vas devoir prendre le contrôle, Christian. C'est parti, on revient.